Chapitre 36e. Prison dorée. Un instant effrayée et sans connaissance au moment où elle se sentit emportée par le soldat Thrace dans lequel elle n'avait pas eu le temps de reconnaître Eugenius, Gunhild ne tarda pas à reprendre ses sens. Quand elle se vit dans une chaise fermée, quand elle remarqua, à la longueur du trajet, qu'on la conduisait dans un quartier éloigné de la ville, elle devina la vérité. « Oh, le malheureux » soupira-t-elle. Devait-elle appeler au secours ? Hélas, le tumulte était si grand dans les rues que la foule agitée n'y ferait pas attention. Et ce n'était pas l'intervention d'une seule personne compatissante qui pouvait la sauver. « Voici mon jour de Pâques. Voici le jour de ma résurrection, » dit-elle en s'excitant elle-même au courage. Elle demanda à Dieu la lumière afin de savoir ce qu'elle avait à dire et à faire. La porte d'une maison s'ouvrit et se referma sur la chaise et son cortège de porteurs. C'était la même où Gunhild s'était déjà trouvée une fois. Dans la cour, la chaise fut déposée à terre, les rideaux s'ouvrirent et Gunhild se leva. Une dame se présenta aussitôt à elle avec des manières humbles et soumises. « Où est ma prison ?» demanda Gunhild. « Quelle erreur, noble dame !» dit la femme. « Eh bien, alors ouvrez la porte de la maison, afin que je m'éloigne. » « Vous éloignez, noble dame. À peine entrée, vous voulez vous éloigner avant d'avoir pris un peu de repos. Cela suffit, je suis en prison et je le sais. » Phoebe fit quelques pas et ouvrit la porte d'une chambre brillamment éclairée et élégamment ornée. « Est-ce là une prison ? » demanda-t-elle. « Manque-t-il ici quelque chose que vous puissiez désirer ?»« Rien que ma liberté, » dit Gunhild. Phoebe laissa tomber ce mot. « Mettez-vous sur ce doux lit de repos. » continua-t-elle. « Voulez-vous prendre quelques rafraîchissements ? Cette table vous offre des fruits, du vin, des pâtisseries, des confiseries. Voulez-vous changer de toilette ? Voici des robes fort belles et fort élégantes. »« Comment vous nommez-vous ? » fit Gunhild en l'interrompant. « Phoebe, pour vous servir, noble dame. »« Votre service, Phoebe, consistera à me laisser seule et à ne paraître que quand je vous appellerai. Laissez-moi maintenant, je vous prie. » Phoebe s'éloigna en se disant « La servir comme une reine. » Ce sont les ordres du noble Eugenius. Sera-t-elle de race royale ? Gunhild resta seule et son regard parcourut avec une tristesse indicible la table couverte de mets et les beaux vêtements étalés devant ses yeux. Je devais, pensa-t-elle, assister aujourd'hui au festin céleste, mais mes lèvres et mon cœur ne sont peut-être pas dignes d'y prendre part. Que la volonté de Dieu soit faite. Cependant, il dépend de moi de ne changer contre aucune autre cette robe de grâce que j'ai revêtue aujourd'hui. La porte s'ouvrit. Eugenius, enveloppé du manteau blanc que portaient les soldats, entra dans la chambre. Gunhild tourna de son côté sa belle tête et lui dit froidement « Pourquoi ce déguisement ? Je vous connais et je vous attendais. » Eugenius laissa tomber son manteau. « Il y a quelques mois, dit-il avec une agitation fiévreuse, je vous ai supplié et conjuré de sauver mon âme en me donnant la main pour m'aider à briser les chaînes dans lesquelles ma force succombe. J'implorais votre pitié. Auprès des belles âmes, il n'est pas rare que la pitié se change en amour, et votre âme est merveilleusement belle. Je faisais ce rêve, mais vous avez été sans miséricorde. Vous m'avez durement repoussé dans l'abîme auquel je voulais m'arracher. Vous êtes devenu catholique pour rendre inutile ma conversion à l'arianisme. Vous n'avez pas trouvé auprès de l'impératrice un seul mot d'excuse, encore moins un mot bienveillant en ma faveur. Vous avez en toute occasion agi comme si l'homme qui vous aime d'un amour de plus en plus violent n'était pas au monde pour vous. Parlez, est-ce vrai ? C'est vrai, dit Gunhild. Et que dites-vous pour vous excuser ? Rien. Maintenant, tout est changé pour vous. Vous n'êtes plus l'enfant chéri de l'impératrice, la favorite du bonheur. Personne ne pense à vous dans le palais des Césars. Vivez, mourez, personne ne demande après vous. Tout est donc changé, excepté mon amour. Tant pis pour vous, dit Gunhild. « Ou pour vous ?» s'écria Eugenius. Gunhild garda le silence. « Pourquoi vous taisez-vous » fit-il vivement. « Est-ce par haine ? Par mépris ? Ou réfléchissez-vous ? Rien de tout cela. Je me tais parce que je n'ai rien à dire sur une pareille question au prêtre Eugenius. Ne m'appelez pas prêtre, je ne veux pas l'être. Je compte sur une dispense du patriarche Arzas. » À ce nom d'Arzas, une douleur cuisante pénétra Gunhild, mais elle reprit bientôt son calme. « Il ne vous la donnera pas. Il ne vous abandonnera pas à la fureur de vos passions. Que ce soit pour votre salut ou pour votre malédiction, que la couronne de la vie ou le partage des damnés vous attendent? Dieu seul le sait. Mais vous êtes prêtre et vous resterez prêtre, je le sais. Il ne peut donc exister entre nous d'autre lien que celui qui unit entre eux tous les membres de l'Église. Pensez autrement, ce serait un sacrilège. Voilà pourquoi je me tais, et j'espère que vous vous tairez aussi. C'est bien, dit Eugénius. Je me tairai après vous avoir fait part de ma résolution. Votre vie reste liée à la mienne. Je ne vous abandonne pas. Tout ce que j'ai fait dans ces derniers temps, je l'ai fait en pensant à vous. Vous étiez mon but. Je m'inquiéterais fort peu que le vieillard qui occupe le siège patriarchal s'appelât Jean ou Arzaz, si l'un ne s'était pas efforcé de creuser entre vous et moi l'abîme que l'autre va combler. Ainsi, sachez bien que je vous ai conquise au prix du martyre que j'ai enduré pour vous, et ne vous imaginez pas, dans votre tête orgueilleuse, que vous pourriez me dédaigner. Le partage de la femme est la soumission, ce sera aussi le vôtre. » Il se tut et la regarda fixement. Gunhild ouvrit ses yeux brillants d'un air aussi tranquille que s'il n'avait pas compris une seule syllabe de tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il pouvait voir sur son visage, c'était une froide expression de mépris. « Ah » murmura-t-il d'un air sombre, « je briserai ce dédain. » Gunhild sourit. Par un mouvement de fureur, Eugénius saisit le poignard qu'il portait au côté. « Cela me soulagerait de vous tuer, » s'écria-t-il avec colère, « et vous le méritez 100 fois. » Mais cela vous serait peut-être agréable. Je ne veux donc pas que vous mouriez. Non, mais je vous torturerai comme vous m'avez torturé, jusqu'à ce que vous vous soyez rendu. Gunhild était retombée dans sa froide indifférence et faisait aussi peu attention à Eugénius que s'il n'avait pas été présent. Il sortit brusquement. Alors seulement, elle respira en liberté. L'air était redevenu pur. Que pensait-elle? Qu'espérait-elle? Elle ne le savait pas, ou du moins elle ne trouvait pas de mots pour le dire. Mais Eugénius, que pensait-il? Qu'espérait-il? Il ne le savait pas non plus. Un monde de passion s'agitait dans son cœur, bouillonnait dans son cerveau. Gunhild triomphait de lui, et cependant il était plus fort qu'elle. Cela l'humiliait extrêmement. Il voulait s'en venger, non par haine, par amour, mais par un amour qui avait quelque chose de l'amertume de la haine. Oh, contradiction du cœur égaré! Pendant que Eugénius se débarrassait de son déguisement et reprenait ses vêtements habituels, un domestique lui annonça que Florus demandait instamment à lui parler. Quoiqu'un peu mécontent d'être troublé dans ses pensées, Eugénius le fit entrer. « Que vois-je? Vous êtes sombre comme la nuit. Auriez-vous manqué votre coup quand le nôtre a si brillamment réussi? Qu'avez-vous à me dire? » demanda Eugénius d'un ton bref. « Voici la nouvelle, noble Eugénius, » répondit Florus, en changeant de ton avec une rare souplesse. Sainte Sophie est en feu. Les partisans de Chrysostome sont soupçonnés d'avoir allumé l'incendie. On est en train de les arrêter, les uns pour les interroger, les autres pour débarrasser Arzaz de leurs intrigues. On veut les traiter avec quelque sévérité dans l'espoir de les amener, par la mortification, à accepter le nouvel ordre de choses. Connaissez-vous quelques personnes qui soient à mettre sur la liste des suspects? Oui, dit Eugénius d'une voix sombre. « Gunhild. » Florus fit un pas en arrière. « Gunhild ? » demanda-t-il d'un air incrédule. « Oui, elle-même, » répondit Eugénius avec vivacité. « J'ai ouï dire autrefois que parmi les femmes de race gothique, il y a des enchanteresses qui savent, par des paroles, par des signes ou autrement, prendre un ascendant mystérieux auquel leurs victimes ne peuvent échapper. Gunhild est une de ces enchanteresses. « Je crois que vous rêvez, noble Eugénius. » dit Florus, stupéfait. Quand même, elle ne serait pas ce que je dis, reprit Eugénius. Elle est ardemment attachée au parti de Chrysostome. Elle est donc du nombre des personnes qu'il faut intimider par une prison sévère, et dont il faut briser la résistance. Excellent, s'écria Florus. Tous les disciples de cet homme semblent avoir hérité de son entêtement. Et comme le disciple n'est pas au-dessus du maître, vérité connue de tout le monde, tous ses disciples, hommes ou femmes, doivent partager son sort dans une certaine mesure. Je le leur souhaite à eux comme à lui, répondit Eugénius. Mais quant à elle, il ne doit y être fait aucun mal. La prison solitaire, sévère, est suffisante. Oh, elle sera en excellente compagnie, reprit Florus. Elle trouvera là toute la sainte séquelle, Sérapion, Tigrius, Euthymius et les diaconesses. Je vais vous envoyer ici un piquet de soldats. Vous pourrez faire emmener l'enchanteresse quand vous le voudrez. Fleurus partit. En route, il se dit, car l'incrédulité est superstitieuse, « Ne serait-elle pas réellement enchanteresse, cette jolie barbare ?» Il alla droit à Lucius, et lui recommanda d'envoyer quelques traces à la maison d'Eugénius, puis il se rendit chez Eugraphia. Celle-ci quitta aussitôt son boudoir en disant à ses esclaves, « Je ne vois aujourd'hui que des visages joyeux. C'est un grand jour de joie. Le méchant patriarche a été chassé de Constantinople. Une conspiration de ses partisans a été découverte. On voulait incendier le palais des Césars comme on a fait de Sainte-Sophie. Mais la providence divine veille et déjoue les projets criminels. Ainsi, réjouissez-vous. » Aussitôt que Graphia fut sortie, Léonia poussa un soupir. « La joie et la tristesse me sont si égales, dit-elle, que je ne fais aucune différence entre l'une et l'autre. Tout ce que madame vient de dire avait quelque chose de si horrible que j'ai bien de la peine à être joyeuse, remarqua Siané. Le vrai jour de joie aujourd'hui, dit Mélita, c'est le saint jour de Pâques. Pas de bavardage inutile, fit l'intendante Eugénia. Celles qui ont fini leur ouvrage doivent se disposer à aller à l'église, et les autres à leur travail. La troupe obéit et se dispersa. Nous voici enfin au but, bon Fleurus, fit Eugraphia d'un air triomphant en allant à lui. Maintenant que le parti a perdu son chef, il ne reste plus qu'à le réduire à l'impuissance. Le noble Optatus se charge de cette besogne, madame. Les uns sont bannis, les autres dépouillés de leurs biens, d'autres subissent des châtiments corporels. Dans quelle catégorie conviendrait-il, selon vous, de ranger la noble Gunilde ? Dans toutes, s'il était possible, fit Eugraphia, transportée de colère. Elle est intervenue comme un mauvais génie dans la vie de mon pauvre Eugénius. Sa légèreté de jeune homme, dont je ne veux pas l'excuser, elle l'a transformée en sombre passion. Elle lui fera plus de mal encore. Et il le sent lui-même, noble dame, ajouta Fleurus. Je viens de causer avec lui. Il dit que Gunilde est une enchanteresse qui lui a jeté un sort. Oui, oui, il y a quelque chose de diabolique en elle, froide et insinuante comme un serpent. Elle a su capter l'impératrice jusqu'à l'aveuglement. Et c'est elle-même, c'est son ingratitude qui a fait tomber le bandeau des yeux de l'auguste Doxia. Mais elle ne brisera pas elle-même les liens dans lesquels elle tient Eugénius enchaîné. C'est à nous de le faire. Allez vite chez Optatus, et dites-lui en mon nom que Gunilde, la fille d'un traître, comblée des bienfaits de l'empereur et l'impératrice, a cependant passé dans le camp des partisans de Chrysostome, et qu'elle est fortement soupçonnée de magie diabolique, qu'il faut la mettre hors d'état de nuire, qu'il faut la punir, la bannir, qu'elle doit disparaître dans un désert, je ne sais comment, Fleurus. Le prophète Optatus le saura, dit froidement Fleurus en l'interrompant. Il connaît ces sortes de cas. Eh bien, courez donc vers lui, et exposez-lui la chose avec la même insistance que j'y mettrai moi-même, si le service de Dieu ne m'appelait à l'église des apôtres, où l'empereur et l'impératrice doivent se rendre aujourd'hui. Le pauvre Eugénius nous saura gré à tous deux de cette démarche, avec le temps. Montrez-vous donc son ami, et aidez-moi à le délivrer de ce démon de Gunilde. Ma reconnaissance sera à la hauteur de votre fidélité et de vos inappréciables services. Distinction, argent, position, tout ce qu'un esprit ambitieux peut désirer, tout cela vous viendra par moi. Si vous réussissez à débarrasser Eugénius de cette passion insensée, je veux dire de son objet. L'amour est un sentiment qui doit rendre l'homme joyeux et content, et non pas triste et misérable. Hors de cela, il ne vaut rien. Sage et pieuse tout ensemble, noble Graphia, dit Fleurus, avec le ton de voix et l'attitude les plus propres à exprimer une profonde admiration. Eugénius a l'esprit comme troublé. Cela ne peut être que le fruit des influences diaboliques, et Optatus ne manquera pas de punir ce crime comme il le mérite. Je cours chez lui. Eugraphia le suivit un instant des yeux et se dit à elle-même. Un sujet utile dans les moments où l'intrigue a fort à faire, comme à présent, mais peu commode quand l'ordre et la tranquillité règnent. Ces sortes de natures inquiètes et curieuses ont besoin qu'on les tienne en laisse. Autrement, elles flairent de tous côtés ce qui n'a pas besoin d'être découvert, ce qu'il est inutile de mettre au grand jour. On pourrait cependant lui donner un évêché éloigné, en Mésopotamie ou en Libye, mais je crains qu'il ne veuille pas quitter Constantinople.